Les gens n'arrivent pas à vivre. Il y a des tas de gens qui sont au chômage dans les grandes villes, dans les petites villes, qu'on vit très difficilement en Iran. À l'origine, c'est une crise sociale, à savoir que ce pays n'est plus en mesure d'assurer à sa population un niveau de vie convenable. Et ce n'est pas dû uniquement à l'embargo, c'est dû à la pression démographique. Pour montrer l'ampleur du phénomène, en 1900, il était 9 millions. En 1950, 17. Aujourd'hui, 80. En 2050, ils seront 100 millions. Donc vous avez un phénomène d'exode rural, un phénomène de métropolisation et un phénomène qu'un certain nombre de sociologues américains appellent de bidonvillisation. Par exemple, vous avez un bidonville à Téhéran de 600 000 habitants. Donc nous sommes dans des phénomènes de surpeuplement qui génèrent des misères collectives et qui forment paradoxalement le socle du régime.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ce régime, à travers son réseau d'associations, nourrit les gens. Le problème de l'Iran, c'est, oui, l'embargo, ça me gêne, mais le problème, c'est qu'est-ce que je vais devenir devant ce gonflement de population. Faut-il ajouter que cette population est homogène ? Elle est homogène ethniquement, tous ne sont pas persans, pas farsis, comme aussi on peut dire, des Arabes, des Turkmènes, des Kurdes, des Azéris, et tous ne sont pas chiites. La situation de l'Iran est simple, vous avez le cœur de la nation géographique, j'entends, qui est chiite, persan, entouré de minorités non persanes qui sont sunnites.
Comment les candidats font face à cette réalité ?
Une des réponses que je peux me permettre de vous faire, c'est qui contrôle le mieux ces masses prolétarisées ? Parce que le problème de l'Iran, c'est pas l'embargo, c'est la prolétarisation de la société iranienne qui prolifère. Et comment on fait pour nourrir tous ces gens ? Il ne s'agit pas seulement de les nourrir, mais enfin de leur assurer un minimum vital. Et vous avez des grandes villes en Iran qui sont devenues des réalités tentaculaires. Et donc, c'est là que va se passer l'élection.
Dans ces villes comme à l'extérieur, vous parlez de contrôle des masses, c'est-à-dire ?
Ce contrôle va plutôt aux extrêmes. Il y a un quadrillage du pays. Il faut quand même savoir qu'en Iran, vous avez un représentant des anciens combattants et qui ont fusionné il y a quelques années. Un par immeuble, un par rue, un par quartier, un par arrondissement. Vous avez une grille qui fait que le premier qui bouge, c'est mal fini. Et ce corset de fer idéologico-politique, un peu comme dans les régimes nazis ou soviétiques, il est doublé par la puissance d'un clergé de plus de 100 000 mollahs qui contrôle la partie rurale de l'Iran. Donc en fait, il ne peut pas y avoir de mouvement, parce que ça fait quand même presque 30 ans qu'ils sont là. Tout est verrouillé. Et donc tout se joue à l'intérieur d'oligarchie, et je pense que nous avons tort de vouloir avoir une lecture politique de ces oligarchies en termes de démocratie occidentale européenne, vous voyez.
Donc si je vous comprends bien, peu importe l'issue du scrutin, en fait.
Ah, vous forcez ma pensée, mais je pense que malheureusement, il y a deux domaines où l'issue du scrutin n'aura aucune conséquence. C'est celui de l'enfermement de la société iranienne dans ce carcan apparu en 1979. Et deuxièmement, la volonté de Téhéran, quels que soient les hommes au pouvoir, d'être une puissance régionale, quel que soit celui qui va sortir de cette confrontation électorale, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre.